J'ai d'abord fait des études d'économie à Paris 1 jusqu'en maîtrise. Ensuite, l'économie ne me satisfaisant pas vraiment, j'ai commencé à faire des études de comptabilité pour finalement préparer un CAPET de gestion comptable et financière et qui m'a permis d'avoir une vie d'enseignant épanoui pendant près de 25 ans dans le secondaire. Mais cet épanouissement a finalement relativement rapidement trouvé ses limites et un peu par hasard, je dois dire qu'il y a beaucoup de hasard dans mon parcours, mais un peu par hasard, sur le tard, j'ai décidé de reprendre des études. Alors, quelles études, je ne savais pas, et quelqu'un m'a indiqué l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, boulevard Raspail, et il m'a dit, regarde le programme, tu verras, il y a plein de choses, peut-être que tu trouveras quelque chose qui t'intéressera. A priori, j'avais donc quitté l'université depuis fort longtemps, je n'avais plus aucune idée de ce qui se faisait dans ce monde-là, et j'ai choisi d'aller demander à Joseph Goua, alors qu'on appelle Jo, si je pouvais participer, enfin écouter son séminaire consacré à la famille. Et il m'a très gentiment dit oui, vous pouvez venir. Et donc pendant près de 2 ans, j'ai écouté ce séminaire consacré à la famille, sans jamais poser de questions, simplement en prenant des notes, en essayant de me mettre à niveau, en lisant. Et j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui va jouer un rôle absolument fondamental dans ma carrière, c'est Gérard Béor. Donc Gérard Béor, je le présente en quelques mots. C'est un spécialiste du marché foncier qui a fait sa thèse sous la direction de Pierre Goubert. Si je dis une bêtise, tu me corriges. Hein. Il a fait sa thèse sous la direction de Pierre Goubert et il s'est consacré au marché foncier à Maintenon et Janville en Beauce au 18e. Donc il est le spécialiste du marché foncier du 18e siècle en France, bien qu'en fait, à l'origine, ça soit la Beauce, mais après, il a largement étendu ses recherches à l'ensemble des départements français. Bien. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on m'étiquette toujours comme quelqu'un qui a travaillé sur le marché foncier. Il se trouve que je n'ai absolument pas suivi les traces de Gérard. J'ai choisi une direction totalement différente. Mais cette direction, elle était quand même liée à quelque chose que Gérard avait fait. Il avait travaillé sur les sources de l'enregistrement au début du 19e. Et en écoutant un exposé de Gérard sur cette source, je me suis dit, c'est étrange, je viens de la comptabilité, je viens de la gestion comptable et financière, et cette source me parle. Je ne l'avais jamais vue, mais elle me parlait. J'avais l'impression que je la comprenais. Donc, j'ai proposé à Gérard Béor de travailler sur cette source, non pas pour travailler sur le marché foncier, mais pour travailler sur les pratiques de partage des héritages dans le bassin parisien. Gérard m'a dit, bah, écoutez, allez aux archives et présentez-moi quelque chose. Et donc, 6 mois plus tard, je suis allé aux archives. Ça a pris un certain temps. Je travaillais dans le secondaire, hein, je le rappelle. Donc, tous les jours, je devais aller enseigner. 6 mois plus tard, je suis allé aux archives et je peux dire que je suis tombé dans la soupe en quelque sorte. J'ai été immédiatement fasciné par les sources que j'avais sous les yeux. Alors, cette fascination, c'est pas simplement une fascination, disons, entre guillemets, esthétique. C'est aussi une fascination par rapport à ce que je voyais et que je reconnaissais mien en quelque sorte. À savoir que quand on a un document comptable à enregistrer, la première question qu'il faut se poser, c'est qui a produit le document? Pourquoi il a produit le document? Pour qui il a produit le document? Quelles sont les informations qu'il y a dans le document? Et à quelles conditions va-t-il être préservé? Et en fait, en lisant ces déclarations de succession dans les enregistrements, de, dans les. Dans les archives de l'enregistrement du 19e, j'ai retrouvé le même type de questionnement. Immédiatement, je me suis demandé qui a produit cette source, pourquoi cette source a-t-elle été produite, pour qui a-t-elle été produite. à quelles conditions vais-je pouvoir l'utiliser et quelles sont les informations qu'elle contient. Après, c'est vrai que la question de la préservation du document, j'y ai réfléchi plus tard. Mais c'est quand même un élément important pour tout historien de savoir pourquoi finalement ce document a été préservé. Mais ce qui m'a fasciné immédiatement, c'est que ce savoir que j'avais en comptabilité, je pouvais le réinvestir, j'espère utilement, en tant qu'historien. Donc, j'ai travaillé essentiellement sur ces déclarations de succession à Milly-la-Forêt, qui est dans le sud-est du bassin parisien, pour deux périodes, le début du 19e et le milieu du 19e, en vue d'étudier les pratiques de transmission des exploitations des agriculteurs, enfin des paysans, à une époque, effectivement, où je me suis rendu compte que l'historiographie était très mince, pour ne pas dire quasiment inexistante. Donc, a priori, moi, ce qui m'intéressait, c'est la transmission des exploitations et les processus de reproduction familiale. Alors, pourquoi les fruits du partage, donc ce livre, pourquoi porte-t-il ce titre? Pour une raison très simple, c'est que chaque exploitation est le fruit d'un partage. On est dans une région de partage égalitaire absolu et effectif. Et ça, c'est un autant les régions de partage inégalitaire avec choix de l'héritier ont été beaucoup étudiées, en particulier par le groupe autour de Joseph Goy, autant les pratiques de transmission des exploitations des exploitations en région de partage égalitaire n'avaient jamais été, à ma connaissance, réellement étudiées. Donc, finalement, la thèse ne portait pas ce titre. Et en réfléchissant, je me suis dit, oui, l'exploitation, c'est le fruit d'un partage. Voilà. C'est le fruit, d'abord, le fruit d'un partage. Après, c'est le fruit d'une construction tout au long d'une vie qui va aboutir au terme de 30 ou 40 ans, à un nouveau partage, et il va falloir reconstruire, etc., de génération en génération, cette exploitation. Donc voilà. Il y a une deuxième source que je me suis mis à mobiliser sur le tard et que j'ai utilisée beaucoup plus dans ma thèse, c'est les inventaires après décès. Alors, les inventaires après décès, bon, c'est une source que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Ils sont moins fréquents que les déclarations de succession parce que tout le monde est amené à mourir et l'administration française chassait les défunts pour pouvoir percevoir des droits de succession. Par contre, tout le monde n'était pas amené à faire un inventaire après décès. Donc, c'était une source, disons, peut-être plus difficile à insérer dans un cadre quantitatif, mais c'était une source d'une richesse absolument fantastique. Alors ça, c'est une source que j'ai beaucoup plus utilisée dans ma thèse que dans mon mémoire de DEA. Alors, parallèlement à ce travail dans le secondaire et à ce travail de recherche pour produire une thèse, Gérard Béor, qui est quelqu'un d'extrêmement dynamique, m'a demandé, dès 2006, de participer à des conférences internationales pour exposer mes travaux. Alors, évidemment, j'étais particulièrement flatté, hein, on peut s'en douter. Par ailleurs, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté, ces conférences internationales, pour une raison très simple. C'est que si l'historiographie française du monde rural du 19e n'est pas extraordinairement riche, à l'étranger, il y a des centaines de travaux là-dessus, et en particulier dans l'ère anglo-saxonne. Et alors maintenant, il faut bien le dire, la plupart des collègues écrivent en anglais. Donc on a une historiographie extrêmement riche à l'étranger, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne. En Allemagne, beaucoup moins quand même. En Allemagne et en Italie, l'histoire rurale a vraiment des problèmes, mais en Espagne, même en Autriche, il y a vraiment des... Donc, ça m'a permis de me confronter à des méthodes et à des sources et à des travaux différents des miens, et ça m'a énormément apporté. Voilà, donc, j'en reviens maintenant à ma thèse. Donc, ma thèse, finalement, je dois dire que j'étais un homme pressé. Puisque j'avais repris mes études très tard, il fallait A priori, je n'avais pas l'idée de faire une carrière universitaire. Hein. C'était plus un travail pour m'ouvrir l'esprit, pour reprendre un travail intellectuel. Et ça s'est passé très simplement, en fait. Gérard Béor m'a dit un jour, est-ce que vous avez l'intention de faire une carrière universitaire? Et là, j'ai compris que c'était binaire. La réponse était oui ou non, il fallait que je la donne en... Dans la seconde qui suivait, j'ai dit oui. J'ai dit oui, c'était un pari pour moi et c'était un pari pour lui aussi. Alors il m'a dit, vous terminez votre thèse très 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 vite. C'était en 2008 et j'ai terminé ma thèse en 2009. Je l'ai commencé en 2005, hein, donc j'ai fait ma thèse en 4 ans. Et après, il va falloir que vous travailliez, que vous ayez un projet, etc. etc. et que vous vous présentiez au CNRS. Je vais vous parler 2 minutes du concours du CNRS. Ce concours du CNRS, c'est un concours assez étonnant. Il faut un projet pour les 10, 15, 20 ans à venir. Il faut construire un projet. Il faut avoir un certain nombre de publications internationales. Il faut avoir au moins un livre, en principe. Il faut avoir sa thèse, évidemment. Et c'est un... À l'issue d'une sélection assez drastique des dossiers, vous avez le droit de passer un oral. Si je ne parle pas assez fort, vous me le dites. Vous avez le droit de passer un oral. C'est un oral de 15 minutes, montre en main. C'est-à-dire qu'on vous coupe la parole si vous n'avez pas fini. Tant pis pour vous. Mais il ne faut pas faire non plus 14 minutes, parce que ça, c'est beaucoup trop court. Et ensuite, vous avez 10 minutes de questions, pareil, montre en main. Donc et vous avez un jury de 18 personnes qui vous écoutent. Donc, en l'espace de 25 minutes, vous jouez votre carrière. Je l'ai raté, comme tout le monde, hein, comme la plupart des gens qui... Rassurez-vous, je l'ai raté 2 fois, je crois. Et puis, la troisième fois, finalement, j'étais là, au bon moment, au bon endroit, et j'ai décroché ce projet. Alors, ce projet, maintenant, j'en viens à ce qui fait un peu mon parcours actuel. Ce projet, c'est un projet qui est centré toujours sur le 19e. J'ai élargi un peu mon espace d'enquête. Hein, ce n'est plus le bassin parisien. C'est la France, la Belgique et l'Angleterre. Et c'est un projet qui porte sur l'agriculture face à la montée progressive au cours du 19e et de la première moitié du 20e siècle face à la montée progressive des grandes industries agroalimentaires. Voilà, ça, c'est le cœur de mon projet. Alors, pourquoi ce projet ? Ce projet, il est lié en partie à ce que j'avais découvert dans les inventaires après décès que j'avais dépouillés pour ma thèse. Je m'étais rendu compte que... pour comprendre les conditions du maintien des exploitants, il fallait que j'analyse les investissements qu'ils faisaient sur leur exploitation. Et je me suis mis à essayer de calculer quel pouvait être le montant des investissements des exploitations, des exploitants à l'hectare. Alors, ça a donné lieu à un article. Alors, c'est le premier article que j'ai publié dans la revue Histoire et Société Rurale, où j'essayais de comparer le montant de l'investissement à l'hectare sur les petites exploitations et sur les grandes exploitations. Et cet article m'a amené à m'interroger sur, finalement, qu'est-ce que ça signifiait l'investissement des exploitants agricoles. Et de fait, dès ce moment-là, j'ai tourné le dos à ce que je croyais être le cœur de mon sujet, à savoir la reproduction sociale et la famille dans les exploitations agricoles, pour m'intéresser à ce rapport de l'agriculture, des agriculteurs à l'économie. L'une des conclusions auxquelles j'aboutissais, et qui n'est pas surprenante hein, au vu de l'historiographie, on le sait, hein, c'est que l'investissement à l'hectare sur la solde des blés d'hiver des petites exploitations du bassin parisien était supérieur à celle des grandes exploitations. Alors certains ont cru voir en cela la défense de la petite exploitation. En fait, ce n'était pas du tout mon objet. Mon objet n'était pas d'étudier en soi la petite exploitation. ce qui m'intéressait, c'était les performances économiques des exploitations, qui sont extrêmement difficiles à mesurer, puisqu'on n'a pas de rendement. On connaît plus ou moins ce que font ces exploitations, mais c'est très difficile. Donc moi, j'avais, si je vous renvoie à cet article d'Histoire et Société Rurale qui a dû être publié en 2011, je crois. En 2011. Voilà. Il ne s'agissait pas non plus, en fait, de prouver que la petite exploitation était plus performante que la grande. C'était pas du tout ça. Il s'agissait vraiment de s'intéresser aux conditions du maintien de la petite exploitation dans des zones qui étaient dominées, comme vous le savez tous, et en particulier grâce au travail de Jean-Marc Morisseau, qui étaient dominées par une fermocratie qui était toute puissante. Et à partir de cette interrogation initiale, au-delà du maintien des exploitations, je me suis intéressé à leur rapport au capitalisme. Alors ça, ça a fait l'objet d'un article qui a été publié relativement tard, en 2014, dans la revue L'Homme et la Société. Alors, dans cet article, j'ai développé l'idée qu'au XIXe siècle, l'agriculture était étrangère à la dynamique du capitalisme. Et j'ai dit qu'en fait, mais ça encore, c'est pas forcément, je suis pas le premier à l'avoir dit, mais ça a été très peu étudié pour la France. C'était beaucoup plus en aval et en amont de l'activité agricole qu'il fallait chercher le capitalisme plutôt que d'aller le chercher dans un processus de production agricole, proprement dit. Donc, en fait, j'aboutissais à l'idée que l'agriculture, en quelque sorte, était, dès le XIXe siècle, un secteur qui était subordonné. Alors, je vais citer quelques firmes que vous connaissez, peut-être ou pas, mais les grandes firmes de la minoterie, par exemple Darblay, la firme Darblay, une firme géante qui alimentait en grande partie Paris en farine. Vous avez une autre firme qui est très connue encore actuellement, qui est la firme Dreyfus, qui commercialisait du guano du Pérou pour l'amener dans tous les champs d'Europe. Vous en avez d'autres qui se sont constituées peu à peu. Vous avez par exemple un autre exemple de firme agroalimentaire très très puissante, c'est Saint-Gobain. Alors c'est agro-industrie, premier producteur de superphosphate avant la Première Guerre mondiale. Vous avez les grandes huileries marseillaises qui importaient des millions de tonnes parfois de graines oléagineuses de l'étranger. Alors vous me direz, c'est étranger à l'agriculture française? Pas du tout, ça a un effet, puisque ça a provoqué la liquidation de toute l'industrie, de toute la production oléicole française, qui était très forte en Normandie en particulier et dans le Calvados en particulier. C'est-à-dire que le colza du Calvados a disparu à la suite justement de ces choix qu'ont fait les grandes huileries du nord de la France et les grandes fabricants d'huile du sud de la France d'importer préférentiellement des graines et des fruits oléagineux qui étaient moins chers. Donc voilà, dès le XIXe siècle, on voit émerger cette agro-industrie, ces industries agroalimentaires qui vont avoir un effet très fort sur le destin de l'agriculture française et des agriculteurs. Bien. Alors, en première intention... Alors, non, avant. Cela dit, est-ce que le fait que le secteur soit subordonné veut dire qu'il n'a aucun pouvoir de décision? Certainement pas, et j'y reviendrai. J'y reviendrai par la suite. On verra que réellement, la profession agricole, je pense qu'on peut dire ça, dès la fin du 19e, va s'organiser justement pour prendre en main au moins une partie de son destin. Bien, alors, en première intention, mon projet, j'avais l'intention de le développer sur les moulins, sur la meunerie, et en particulier parce que j'avais trouvé une partie des archives d'Arblay dans les archives de l'Essonne. Finalement, je me suis aperçu que je faisais probablement fausse route et que c'était pas là que se situait le cœur de cette problématique. D'une part, je manquais, finalement, il n'y avait pas tant d'archives que ça, et d'autre part, je ne crois pas que j'étais au cœur de ce processus, de ce double processus de subordination de l'agriculture, mais aussi de mise en ordre de la profession agricole. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai complètement abandonné cette partie de mon travail. Hein. Je continue à travailler sur l'approvisionnement en grains urbains et je travaille en particulier avec un chercheur flamand. Pour ceux qui parlent le flamand, ils ne comprendront pas le nom, mais les Français vont le comprendre. C'est Wouter Rougine, qui est un docteur de l'université de Gand avec lequel je travaille et avec lequel j'ai publié dans l'Agricultural History Review et dans la Revue du Nord très récemment aussi. Et on a aussi un projet pour les journées de Flaran cette année sur le stockage des grains. Donc, j'ai pas totalement abandonné cet aspect de mon travail. Mais je me suis recentré sur le problème de l'introduction des engrais à la fin du 19e siècle dans l'agriculture française. Alors, pourquoi ? Premier constat, on sait extrêmement peu de choses sur l'introduction des engrais. Il y a bien des travaux sur les engrais, mais c'est plutôt des travaux qui relèvent de l'histoire des sciences. Ce ne sont pas des travaux qui relèvent de l'histoire rurale. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, un travail que j'admire beaucoup, hein, celui de Nathalie Jasse, mais il n'y a pas de paysans du tout. Il y a des scientifiques, il y a des pouvoirs politiques, mais il n'y a pas de paysans. Ça ne veut pas dire que le travail n'est pas intéressant, c'est même un travail absolument fondamental. Mais il n'y a pas de paysans. Donc, et ce travail justement sur le rapport, ces travaux sur le rapport de l'agro-industrie à l'agriculture, très souvent, ne font pas de place aux paysans. Et c'est ça qui est dommage. Et donc, moi, je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Alors, ce constat, il n'est pas simplement valable pour la France. Il est valable pour l'Angleterre, il est valable pour les États-Unis, il est valable pour la Belgique, il est valable pour l'Allemagne. Alors, par exemple, l'exemple des États-Unis est particulièrement symptomatique de ce point de vue-là. Il y a beaucoup d'articles ou d'ouvrages sur les productions de phosphate aux États-Unis, mais en fait, les agriculteurs, ils sont toujours absents de ces articles et de ces ouvrages. Donc voilà, l'idée, c'est de recentrer ces problématiques sur le monde agricole. Alors, plus récemment, il y a eu quelques historiens ruralistes, dont je fais partie, qui ont essayé de réintroduire l'histoire rurale dans cette histoire des engrais. Alors, il y a un travail qui est un travail extrêmement important, d'un jeune docteur de l'université d'Anvers qui s'appelle Peter de Greef, qui a publié une thèse, alors qui va intéresser les modernistes. Il a trouvé une source fabuleuse et il a réussi à reconstituer parcelle par parcelle la quantité de ce qu'ils appellent off-farm manure, c'est-à-dire les engrais extérieurs à la ferme, il a essayé d'analyser la manière dont ces engrais s'étaient répandus au cours du 19e siècle dans l'agriculture flamande. Alors, je ne sais pas si quelqu'un connaît le travail de Peter de Greef, mais c'est un travail absolument fascinant. Vous pouvez, si jamais vous voulez le contacter, je peux vous mettre en contact avec lui. Hélas, comme il y a peu de postes, y compris en Belgique, il a cessé de faire de l'histoire et il est maintenant fonctionnaire. Il n'est plus historien, mais c'est quand même un travail absolument fondamental. Alors il y a d'autres personnes qui tentent aussi d'ouvrir la voie. En Angleterre, il y a Liam Brunt, et puis en France, il y a moi, et puis il y a Niccolò Miniemi aussi qui s'est un peu intéressé à ça. Il y a un autre aspect qui est très étudié actuellement par deux groupes de chercheurs, un en Espagne et un en Autriche, qui est tout ce qui concerne les flux d'énergie et de matière entrant et sortant des exploitations agricoles. C'est un travail qui est mené alors en particulier sous la direction de Fridolin Crossman à Vienne et puis par toute une équipe qui est centrée autour de Séville et autour de Barcelone et de Gérone. En fait, il s'intéresse à la quantité d'input, mais alors par exemple azote, phosphate, potasse, énergie qui rentre dans l'exploitation et à ce que restitue l'exploitation. Alors, ce sont des travaux qui s'intéressent à la, disons, longue période. C'est-à-dire qu'en fait, ils essaient de faire leurs calculs avant la seconde révolution agricole, c'est-à-dire avant la révolution agricole de la fin du 19e et après la révolution agricole des années 45-70. Voilà. Donc c'est des travaux qui sont réellement menés au moins en partie par des historiens ruralistes. Alors c'est des travaux qui sont publiés en anglais, en général dans des revues d'écologie ou des revues... c'est pas des revues ruralistes, mais ce sont des vrais historiens ruraux souvent. Qui mène, qui en tout cas qui apporte les sources et qui apporte une partie des problématiques. Donc moi, mon travail sur les engrais, il s'insère plus ou moins dans ce courant de renouveau en quelque sorte de l'histoire rurale qui porte en particulier sur la fin du 19e et la première moitié du 20e siècle. Il y a enfin un dernier courant historiographique dans lequel je m'inscris, mais pas vraiment, vous allez comprendre pourquoi. C'est le courant historiographique qui s'intéresse à l'exploitation des gisements d'engrais dans les espaces coloniaux ou post-coloniaux. Alors, on pense en particulier au guano. On pense au guano qui était exploité sur les îles de la côte péruvienne. Il y a le nitrate du Chili. Il y a le phosphate de Floride. Alors, ce n'est pas un espace colonial, mais c'est un espace périphérique de l'Amérique du Nord à cette époque. C'est un espace périphérique des États-Unis, plus exactement. Vous avez les phosphates, évidemment, algériens, puis tunisiens, puis marocains. Vous avez aussi les îles phosphatifères de l'océan Pacifique qui intéressent aussi beaucoup certains chercheurs anglo-saxons, australiens entre autres, mais aussi allemands, puisque ces îles ont appartenu à l'Allemagne, étaient sous protectorat allemand pendant une période. Vous avez enfin un historien sud-africain qui a récemment, en 2011, fait une thèse sur les îles qui se trouvent au large de la Namibie et qui ont été exploitées pour leur guano et qui sont d'ailleurs toujours exploitées pour leur guano. Donc voilà, vous avez donc aussi ce courant historiographique que je connais, mais j'ai dit que je m'inscrivais dans ce courant historiographique. C'est pas mon objet. Moi, mon objet, c'est pas l'exploitation des espaces périphériques. Mais je ne peux pas ignorer ces travaux dans la mesure où le phosphate et les engrais azotés arrivaient de ces espaces périphériques. Alors, ce long détour historiographique, il était nécessaire pour situer mes propres travaux actuels. C'est donc en tant qu'historien du monde rural que j'étudie le marché des engrais. J'adopte en fait un point de vue qui est très différent de celui qu'adoptent, par exemple, les historiens du fait urbain ou les historiens de l'hygiène urbaine. Parce que ça aussi, c'est un autre courant historiographique qui est très développé actuellement autour des travaux de Sabine Barle, par exemple, de Paris 7, si mes souvenirs sont bons. Donc, vous avez donc toute cette nébuleuse qui parle des engrais, mais qui, en fait, n'en fait jamais... ne fait jamais de l'espace rural un objet. C'est toujours, assez paradoxalement, l'espace périphérique de ces études. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, on utilise des phosphates, on utilise des nitrates, on utilise de la potasse, mais en fait, on ne sait jamais rien de la manière dont on l'utilise et on ne sait jamais rien de la manière dont ces engrais arrivent. Comme c'est un chantier qui est en cours pour moi, j'ai publié un premier article dans une revue qui s'appelle la Journal for the History of Environment and Society. Et ce premier article, c'est le premier jalon de ce qui va mener en principe à une HDR. C'est un article sur l'utilisation de la poudrette parisienne. Et je dois à Jean-Marc Morisseau une partie de cet article. Parce que dans un article que tu as publié en 1985, peut-être, tu as parlé des engrais, de ce type d'engrais, et tu as dit « on n'en sait rien ». On ne sait pas vraiment s'ils étaient utilisés ou pas. Et donc, j'ai essayé de relever le défi dans cet article. Est-ce que les agriculteurs de la région parisienne utilisaient ou non ce qu'on appelle la poudrette ou plus généralement les engrais urbains ? Et ça a été la première fois que j'ai enfin pu replacer les agriculteurs au centre de l'interrogation. Je n'ai pas regardé la production et la distribution de ces engrais du point de vue de l'hygiène urbaine, du point de vue des édiles urbaines. J'ai essayé de le regarder du point de vue des paysans. Est-ce que concrètement, on retrouve ces engrais dans les champs ? Alors, et j'ai abouti à une conclusion qui n'a pas forcément fait plaisir à une de mes collègues, qui a beaucoup écrit là-dessus et qui s'émerveillait des milliers de quintaux qui étaient exportés chaque jour de Paris ou chaque année de Paris. Et en fait, le collègue en question écrivait « On a vendu 200 000 quintaux de poudrette. » Alors la poudrette, en deux mots, c'est de la merde séchée. Hein, c'est la merde des Parisiens séchée. On a vendu 200 000 quintaux telle année. Et j'ai retrouvé une statistique. Certes, on a vendu 200 000 quintaux chaque année, mais il en restait 1 million de quintaux en stock. C'est-à-dire qu'en fait, quand on décale le regard entre ce que nous dit l'historiographie du fait urbain et ce que nous dit une étude, en quelque sorte, à partir de ce que font les paysans, on voit les choses tout à fait différemment. Et je pense que ce qui est important pour l'histoire rurale, c'est d'arriver à démontrer son utilité. Et arriver à démontrer son utilité, c'est adopter le point de vue des agriculteurs et se dire, voilà, c'est vous, les historiens des élites, les historiens des sciences, les historiens du fait urbain, vous nous dites des choses sur la ruralité, allons regarder, relevons le défi, allons regarder ce qui se passe réellement dans les espaces ruraux. Et à partir de là, on peut leur dire, oui, on utilisait de la poudrette, mais finalement, pas tant que ça. Et à la fin des fins, l'entreprise qui gérait ça, la seule idée qu'elle a eue, c'est d'essayer d'exporter à vil prix sa poudrette en Belgique. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte le cœur de mon projet d'HDR, le cœur de mon projet de recherche. C'est replacer au centre de des interrogations, les espaces ruraux et les pratiques des paysans. J'en viens maintenant à mon projet d'HDR. Mon projet d'HDR, c'est la commercialisation des engrais à la fin du 19e siècle. Très précisément, c'est l'idée, c'est étudier non seulement le commerce, mais aussi l'utilisation que font les paysans de ces engrais. La période, c'est la période 1870-1914. Alors, il faut que j'explique pourquoi j'ai choisi cette chronologie et pourquoi j'ai décidé d'étudier ces produits. Alors, d'abord, pourquoi j'ai décidé d'étudier les engrais ? Comme je l'ai dit, mon projet global de recherche, c'est d'étudier les rapports de la paysannerie à l'agro-industrie et aux industries agroalimentaires. Les engrais, à la fin du 19e siècle, je pense que c'est un point d'entrée pour réaliser ce programme de recherche particulièrement fécond. Je l'ai dit, vous avez des firmes géantes et des firmes qui sont encore des firmes géantes, comme Saint-Gobain, comme Dreyfus, qui ont pied dans ces marchés et qui jouent un rôle absolument fondamental. Plus tard, vous aurez Kuhlmann, mais actuellement, enfin, plus tard, vous aurez la Shell, vous aurez toutes les grandes compagnies pétrolières qui se lanceront dans l'aventure. Vous avez BASF aussi qui dès avant 1914 se lance dans la production d'engrais azoté. Donc vous avez vraiment des puissances industrielles et financières qui jouent un rôle absolument fondamental dans ce marché. Et peut-être plus encore que dans l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire que très, très rapidement, vous n'allez plus avoir de petits acteurs dans ce marché. Vous allez avoir des acteurs géants. C'est-à-dire que les agriculteurs, et c'est en ça qu'on peut dire qu'ils sont subordonnés, mais on verra que ce n'est pas aussi simple que ça, sont face à des firmes qui pèsent des dizaines de millions de francs or et qui pèsent actuellement des dizaines, voire des centaines de milliards de francs. Bien, donc, ça, c'est pour justifier l'entrée par ce type de produits particuliers que sont les engrais qu'on va appeler par la suite chimiques ou minéraux. Cela dit, le plus important dans l'immédiat pour moi, c'est de vous faire de justifier les bornes chronologiques de mon enquête. Pourquoi 1810-1914 ? Alors, évidemment, on pourrait se dire que c'est lié à l'histoire politique ou à l'histoire militaire. Ça n'aurait évidemment absolument aucun sens de choisir une chronologie qui soit liée à autre chose que l'histoire des engrais ou à autre chose que l'histoire rurale. En fait, ces bornes chronologiques, elles sont liées à des phénomènes qui sont propres au marché des engrais et qui sont donc propres aussi à la demande des agriculteurs. À partir de la fin des années 60, les quantités d'engrais et les conditions de commercialisation des engrais vont changer radicalement. Alors, en ce qui concerne les phosphates, à la fin des années 60, on met en exploitation deux gisements de phosphates très importants, qui vont jouer un rôle très important. Les phosphates de Belgique et les phosphates de Caroline aux États-Unis. Donc, émergence d'une première industrie géante des phosphates, d'abord en Belgique et en Caroline, et par la suite, on va le voir, on ne le verra pas parce que je ne vais pas tout défiler, mais par la suite, ça sera dans la Somme, puis dans l'Algérie, puis en Tunisie. Je reviendrai sur le Maroc plus tard. Ce qui est assez fascinant, c'est que ces phosphates belges qui ont joué un rôle si important, pour l'instant, je n'ai rien trouvé dans l'historiographie qui y fasse référence. Alors, si jamais vous avez des idées, dites-le moi, parce que c'est un vrai mystère. Je suis allé dans les archives belges, je n'ai pas trouvé grand-chose non plus. Alors, il y a les phosphates de la Somme et les phosphates de Beauval, je pense que je vais pouvoir trouver des sources. Mais c'est là, je dirais qu'il y a un blanc historiographique. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a vraiment pas grand-chose, voire rien. Deuxième chose importante qui se passe au tournant des années 1870-1880. Le guano du Pérou, qui constitue le grand engrais azoté du milieu du 19e siècle, perd peu à peu sa prééminence en raison de l'épuisement des gisements. Et émerge parallèlement le nitrate. Le nitrate de soude du Chili, qui est un autre engrais azoté. Alors, quand je parle d'azote, je parle de nitrogène. Les Anglais disent nitrogène. Donc, nitrate, nitrogène. Donc, c'est bien un engrais azoté, pour que les choses soient claires. Donc, au cours des années 1870, va émerger le nitrate de soude, qui est à l'origine possédé par la Bolivie et le Pérou, et puis qui va, à la suite de la guerre du Pacifique, être contrôlé par le Chili. Donc vous avez, sur ces deux engrais, vous avez un changement d'échelle, non seulement parfois de produits, mais aussi d'échelle. C'est-à-dire qu'on passe finalement d'une production qui est relativement mince à une production qui se chiffre assez rapidement en centaines de milliers de tonnes, voire en millions de tonnes. Troisième élément, le troisième engrais, c'est la potasse. Alors, la potasse, jusqu'en 1914, en gros, elle est monopolisée par les Allemands. Hein, les grands producteurs de potasse se trouvent en Allemagne. Les gisements sont découverts. Alors, c'est pas vraiment une découverte, hein, mais les gisements sont mis en exploitation lentement au début des années 50, puis progressivement au milieu des années 60, ça commence à augmenter. Et c'est surtout après 70 et 1880 que les gisements de potasse allemands vont être exploités à plein. Bien, voilà pour la borne basse de la chronologie. Maintenant, pourquoi choisir la guerre 14 comme borne chronologique haute ? Alors là encore, il y a trois phénomènes qui permettent d'expliquer ça. Le premier phénomène, et c'est peut-être le phénomène le plus important pour un des phénomènes les plus importants pour l'agriculture, non seulement française, mais pour les agricultures mondiales, c'est la mise au point par BASF et par Haber et Bosch, deux personnes, deux chercheurs allemands, de la synthèse de l'azote atmosphérique. Alors, ça paraît peut-être anecdotique, mais c'est absolument fondamental pour beaucoup de raisons, mais du point de vue agricole, avant la synthèse... Alors, vous savez que 80% de notre atmosphère, c'est de l'azote et un peu moins de 20%, c'est de l'oxygène. C'est-à-dire que l'azote, en fait, c'est un élément qu'on trouve partout. Le problème, c'est que la seule source d'engrais azoté extérieur aux fermes, c'était le nitrate du Chili. Il n'y avait rien d'autre, ou quasiment rien d'autre. Mais à partir du moment où on arrive à synthétiser l'azote atmosphérique et à en faire de l'ammoniac, et ça va permettre de créer, de produire des engrais, là, la source d'azote devient illimitée. Alors, cette mise au point, elle intervient entre 1907 et 1913. Donc, de ce point de vue-là, la Première Guerre mondiale marque une rupture. Non pas tant parce que c'est la Première Guerre mondiale, mais tout simplement parce que cette fois, les Allemands sont capables de produire des engrais azotés sans avoir recours au nitrate de soude du Chili, dont ils étaient les plus grands consommateurs. Pour eux, c'est vraiment important. Alors, autre aspect très important de la découverte de Haber-Bosch, c'est que pour produire des explosifs, en fait, pour produire des explosifs, souvent, il faut du nitrate, du phosphate et de la potasse. Vous voyez bien qu'il y a un rapport avec les engrais. Les Allemands n'avaient pas de source de nitrate. Ils dépendaient pour le nitrate exclusivement des nitrates de soude du Chili. Évidemment, quand ils ont mis au point le procédé Haber-Bosch, enfin, quand Haber et Bosch mettent au point le procédé, ils n'ont plus besoin du nitrate du Chili pour faire des explosifs. C'est quand même extrêmement important. C'est tellement important qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, dans le traité de Versailles, il est prévu que BASF mette à disposition ses brevets. Non seulement ses brevets, mais elle a aussi l'obligation de mettre à disposition ses ingénieurs pour permettre aux puissances qui ont gagné la guerre de maîtriser le procédé Haber-Bosch. C'est donc quelque chose d'extrêmement important, ce procédé. Et ça marque vraiment une rupture, pour l'agriculture en particulier, mais pour d'autres raisons aussi. Deuxième chose, en ce qui concerne le marché des phosphates, jusqu'en 1914, le plus gros producteur de phosphates, hein, il y a deux grosses productions de phosphates, c'est la Floride et la Tunisie. En 1917, c'est-à-dire avant la fin de la guerre, sont mis en exploitation, très timidement au début, les phosphates marocains. Et les phosphates marocains, ils vont tout emporter sur leur passage. C'est-à-dire qu'actuellement, je crois que... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est de l'ordre de 80% des réserves mondiales sont concentrées au Maroc. C'est-à-dire qu'il y a l'avant mise en exploitation du Maroc et il y a l'après. Là, la structure même du marché des engrais... Et donc, les conditions d'approvisionnement des agriculteurs sont radicalement changées. C'est-à-dire que la quantité de phosphate disponible devient, aux yeux des contemporains, totalement illimitée à partir du moment où on met en exploitation les gisements marocains. Donc ça, c'est pour justifier au niveau du phosphate. La guerre 14 marque aussi une rupture sur le plan des engrais potassiques. Peut-être moins spectaculaire, mais... tout aussi importante au moins pour un pays, la France. À savoir que je l'ai dit, les Allemands avaient le monopole de la production de la potasse, quasiment le monopole mondial de la production de la potasse. Et il se trouve que le dernier grand champ de potasse qu'ils avaient trouvé se trouvait en Alsace. Alors, ça débute timidement, je crois, en 1906, et c'est vraiment en 1910 qu'on met en exploitation les gisements de potasse d'Alsace. Et il est bien évident que pour la France, ça a tout changé de ce point de vue-là, puisque à l'issue de la guerre, la France récupère l'un des gisements les plus riches du monde en potasse. Et donc, de ce point de vue-là, c'est extrêmement important, au moins pour l'agriculture française. Donc, on voit bien que la borne chronologique, elle n'est pas liée en soi à la guerre 14. Elle est vraiment liée à des dynamiques propres de l'industrie des engrais. L'idée de mon HDR, ce n'est pas d'étudier en soi ce marché. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je l'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier, en quelque sorte, de restituer aux agriculteurs leur autonomie du point de vue de l'histoire industrielle, puisque c'est souvent l'histoire industrielle qui a développé ce champ de recherche. L'idée, c'est de me dire que, bien, à partir de 1870, on a une croissance de la quantité d'engrais disponible pour l'agriculture. Comment les paysans ont-ils reçu cela? Et comment, en particulier, les paysans français ont-ils reçu cela, eux qui passent pour être des paysans particulièrement arriérés? C'est encore, enfin, ça, c'est un lieu commun de l'historiographie à l'étranger. Le paysan français, si vous voulez, en gros, vous avez... C'est des images datant du 18e, bien connues, des frères Lenain. Enfin bon, ils ont une vision, enfin souvent les historiens étrangers ont une vision totalement caricaturale de la paysannerie française. Donc, mon objectif, c'est de comprendre comment ces engrais ont été reçus, comment ils ont été reçus, et si ils ont été reçus, et par quelle voie ils ont été reçus. Et c'est en fait de restituer en fait à cette paysannerie ce qu'elle a d'autonomie et ce qu'elle peut faire par elle-même. Et ce qu'elle peut faire par elle-même à cette époque, c'est absolument fondamental pour comprendre la dynamique du marché des engrais. En tout cas en France, mais aussi en Allemagne d'ailleurs. C'est moins vrai, par exemple, en Angleterre, aux États-Unis ou en Belgique. Dans la partie wallonne, dans la partie flamande, c'est plus proche de la trajectoire française. En fait, en 1883, si mes souvenirs sont bons, je fais toujours une erreur, hein, c'est 83 ou 84, il y a une loi absolument fondamentale, vous allez me corriger si je me trompe, c'est la loi sur les syndicats. Et 84, hein, c'est ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous le savez sans doute, puisque vous êtes souvent historien ruraliste. Cette loi, a priori, elle n'est pas du tout prévue pour les syndicats agricoles. Enfin, a priori, parce que dans la discussion parlementaire, il y a un sénateur, dit-on, qui va s'exclamer « et agricole ». Les intérêts « et agricole » et, à partir de là, vont fleurir dans la France entière des syndicats agricoles. Des syndicats agricoles qui ont souvent été vus par l'historiographie comme des moyens dont disposaient les élites politiques pour maîtriser le vote paysan. Première chose, ou qui ont été vus comme des syndicats boutiques. C'est-à-dire pour attirer le petit paysan, on va vendre des engrais. Et je me suis dit, bon, moi, je ne suis pas très pour les explications purement politiques. Et puis, je me suis dit, un peu comme d'habitude, finalement, on prend un peu les paysans pour des crétins, quoi. Hein, il suffit de les attirer avec un leurre et puis ils vont se mettre à voter. Et le leurre, c'est les engrais, hein, évidemment. Il suffit de les attirer avec un leurre et le leurre, c'est... Ils vont voter comme les élites locales l'entendent. Et en fait, je me suis plongé, depuis 2 ans, dans les journaux syndicaux. C'est beaucoup plus complexe que ça. L'histoire est beaucoup plus complexe. Il y a un vrai projet, dès la formation des syndicats agricoles. Et ce vrai projet, c'est un projet de modernisation de l'agriculture française. C'est la thèse que je vais défendre dans mon HDR. C'est-à-dire qu'il y a une vraie co-construction par les syndicats agricoles, par les firmes qui produisent et commercialisent les engrais, par les élites scientifiques et par une partie de l'appareil d'État, de construire un projet, de mettre en œuvre un projet de modernisation de l'agriculture. Et ce projet de modernisation de l'agriculture, à cette époque, il passe par les engrais. Parce que beaucoup plus que la sélection des semences, que la sélection des races, beaucoup plus que le travail sur le vivant, l'engrais va apparaître comme le vecteur de modernisation de l'agriculture française. Donc c'est de ce point de vue-là, pour moi, le moyen de restituer en quelque sorte à la profession agricole son autonomie. Mais c'est aussi, je crois, le moyen de réfléchir à ce que sont les syndicats agricoles et aux projets modernisateurs qu'ils portent.